never seen the likes of it before. Hear the cries of the people. Hear the cries of the people.
Alien to everything that came our way, and for whatever else will come in our future. Let us celebrate National Indigenous Day.
Les vibrations de la communauté, CKUT FM 90.3.
Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
Non, encore, mais ça va pas tarder.
Et tu l'as pris pourquoi?
J'ai pris le vaccin danse.
Le vaccin danse? Trop bonne idée!
Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
Vous écoutez Lesbosons avec Nathalie Di Palma. Sur les ondes de CKUT, le 90.3 FM.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Lesbosons. Nous sommes avec Geneviève Tremblay, qui est diplômée de l'UQAM en psychologie. Elle travaille comme réalisatrice, journaliste et scénariste à la télévision depuis près de 20 ans. Elle débute sa carrière professionnelle à l'émission Culture Choc, où son documentaire sur les Carmélites de Trois-Rivières lui a valu un prix Ruban d'Or, ainsi qu'une nomination au prix Gémeaux. Elle réalise ensuite des documentaires et reportages dans le cadre des séries documentaires à caractère social et culturel pour différents réseaux de télévision, tels que Radio-Canada, RDI, Télé-Québec, Art TV et Canal V. Depuis 2012, elle réalise des documentaires biographiques pour la série Les grands reportages personnalités diffusés à RDI et Lumière sur à Art TV. Elle a entre autres réalisé les documentaires de Louise Latraverse, Roger Tabra, Edith Butler, Micheline Langteau, Claire Lamarche, Sonia Benezra, Lisa Frula, Serge Postigo, Danny Turcotte et plus récemment Élise Guilbeault. Bonsoir Geneviève Tremblay, merci d'avoir accepté l'invitation.
Ça me fait plaisir.
Tu as étudié à l'école Promédia en animation et journalisme parlé. Qu'est-ce qui t'a mené vers le documentaire, la scénarisation et la réalisation?
Bien, c'est sûr que j'ai toujours été très curieuse. J'ai toujours voulu comprendre les réalités, les êtres humains, très aventurière, exploratrice aussi. Alors, c'est sûr, pour moi, ça allait de soi, ce métier qui m'appelait. C'est, dès mon jeune âge, dans les parties de famille, pendant que mes cousins, mes cousines jouaient à la cachette, moi, déjà, j'étais assise avec les personnes âgées. Je posais des questions sur leur vie, comment ils voyaient le monde. Alors, tu sais, très jeune, j'avais cette curiosité de l'être humain. Et je me rappelle, à 17 ans, je me suis inscrite au journal étudiant du Cégep Montmorency. Et j'ai commencé à faire des entrevues avec des artistes qui se produisaient à la salle André Mathieu. Puis là, rapidement, j'ai eu la piqûre. Enfin, là, ça s'est enchaîné avec la radio étudiante, CISM, CKUT aussi, Canal Vox, Laval 9. Et tout naturellement, par la suite, je suis allée à l'école Promédia où j'ai appris des rudiments au niveau de la diction, de la communication. Et juste pour vous dire une petite anecdote, je me rappelle, j'avais 17 ans et j'écoutais les prix Gémeaux, tu sais, avec mon ami. Puis j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans mon salon, tu sais? Je devrais être là-bas avec les artistes, faire des entrevues. Alors, j'étais en pyjama, je me suis habillée, on est parti avec mon ami. Puis là, j'attendais au Théâtre Saint-Denis, dehors, avec mon petit magnétophone, les personnalités là, qui venaient de gagner des Gémeaux. Puis j'étais très, très fébrile. Et finalement, j'ai réussi à faire des entrevues avec 8-10 personnes qui avaient gagné des Gémeaux. Je pense à, mettons, qui avait Claire Lamarche, Thomas Brathwaite, Sonia Benezra. Fait que j'étais vraiment... très fébrile. Et à ce moment-là, j'ai compris puis j'ai réalisé que je pouvais aller dans des salles de presse avec des accréditations et tout ça. Puis là, à 17-18 ans, j'étais toujours dans les lancements, les galas avec les journalistes professionnels. Alors, c'est ça, c'est tout naturellement. J'ai eu envie d'aller dans ce chemin-là. J'ai eu la piqûre et c'est par la force des choses que je me suis inscrite au baccalauréat en communication à l'UQAM. Mais il manquait quelque chose. C'est comme si je restais sur mon appétit. J'avais besoin d'aller plus loin au niveau de l'humain, de la connaissance, au niveau de la psychologie, tout ça. Alors, c'est ce qui fait que j'ai abandonné mon baccalauréat en communication à l'UQAM pour aller en psychologie. Oui.
Donc, c'est la curiosité de l'être humain qui t'a amené vers la psychologie. Puis, t'es une fonceuse aussi pour avoir pris l'initiative d'aller sur le tapis rouge comme ça.
Oui, tu sais, ça faisait partie de mon ADN. Tu sais, moi, dans le fond, là, tout ce que tester les limites, explorer, aller où on peut pas aller, moi, ça me parle. Quand je suis pas invitée, j'ai envie d'être là.
Puis, est-ce que tu considères que ton bac en psychologie se marie bien avec ton travail de réalisatrice?
Je crois que oui, tu sais, c'est ça, c'est pas de cause à effet, mais je crois que le travail que je fais est quand même teinté de cette expérience de mon baccalauréat. C'est sûr qu'en rencontrant des êtres humains, tu sais, il y a peut-être une plus grande facilité à peut-être analyser dans sa globalité, aller voir un peu les sous-couches qui se cachent derrière le masque, les émotions, le jeu des blessures, le parcours des individus. Tu sais, j'ai plusieurs de mes collègues qui aiment parler, tu sais, bon, tu sais, la culture, le travail, tout ça. Mais moi, j'aime aller en dessous, j'aime aller en profondeur. C'est pour ça que parfois, les entrevues sont un peu longues. Des entrevues de 6-7 heures, 8 heures pour des documentaires biographiques. Mais c'est parce que j'aime aller derrière, j'aime comprendre les motivations, j'aime... C'est ça, pour finalement connaître l'essence de l'être humain, parce que c'est un peu ça la base dans mon travail comme documentariste biographique. C'est, oui, on peut parler de ce que la personne a fait, mais moi, j'aime parler de ce que la personne est. Alors, aller dans l'être plutôt que dans l'avoir. Alors, c'est sûr que pour moi, cette connaissance de l'être humain dans sa globalité, probablement, j'imagine que ça m'aide dans mon travail. Ouais.
Est-ce que les personnalités connues aiment aller dans ces zones-là? Est-ce que c'est plus difficile? Ou...
Ben, ça dépend des gens. C'est sûr que parfois, ça prend quand même beaucoup de courage, beaucoup d'humilité. Comme on dit, mettre ses tripes sur la table, s'abandonner à quelqu'un. Parfois, puis même... pas nécessairement des gens, on se connaît pas personnellement. Alors, mais je pense que ça prend une certaine confiance. Puis moi, je suis très consciente de ça, de cette responsabilité de finalement que le regard que je porte sur le parcours d'un individu soit à la hauteur de ce qu'il est. Tu sais, alors ça prend de la confiance, ça prend du travail, mais je pense que à la base, si la chimie opère tout ça, ben généralement les personnes sont assez enclines à s'abandonner, à suivre. Puis généralement, jusqu'à présent, j'ai quand même eu des bonnes expériences à ce niveau-là. On m'a dit bon, merci d'avoir tracé un portrait qui était juste ou qui était cohérent avec mon vécu. T'sais. Mm-hmm. Alors généralement, ça se passe bien.
Super. On va aller en musique avec Edith Butler. On écoute La Vin et on revient avec notre invité Geneviève Tremblay.
Mille 300 d'unes de poule, la tank est à moitié full, ça fait 8 heures que je roule au secours. Faut prendre son mal en patience, on avance. Mille 300 de forêt, prochaine arrêt Martinet, où l'oiseau ne dort jamais, c'est tout près. Le fleuve déjà se détend, tu m'attends. Oh, Saint-Eulalie, Saint-Valère, Saint-Albert et Trois-Rivières, comme une prière. Oh, tout le long de la grande rivière, la vas-y comme ma sœur, la connaît par cœur. Finir par déraper, oh, Nelly, y'a plus de place. sortie, que je rattrape mon fuseau horaire. Voici le Mont Saint-Hilaire et la nuit. Tous les réverbères s'éclairent, tu m'espères. Me rapproche de ceux que j'aime. La vin, c'est quoi ma soeur, la connaît par cœur. La vin, c'est comme ma soeur, la connaît par cœur. La vin, c'est comme ma soeur, la connaît par cœur.
Nous sommes de retour avec Geneviève Tremblay, réalisatrice, journaliste et scénariste à la télévision depuis près de 20 ans. Pour en revenir à ton bac en psychologie, tu as d'ailleurs réalisé un documentaire qui s'appelle « Les blessures universelles des femmes incarcérées », un documentaire sur Pascale Gagnon qui, après 15 ans d'aller-retour en prison, a enfin retrouvé la liberté et qui souhaite se faire connaître comme auteure, compositrice, interprète. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience?
Bien, c'est sûr, pour moi, ça a été une expérience très touchante et troublante aussi parce que, bon, j'avais été approchée pour faire un documentaire, comme vous mentionnez, sur les femmes incarcérées. C'est un peu dans le cadre, à l'époque, d'Unité 9, pour comprendre un peu plus la réalité. Et moi, à la base, je devais suivre Pascale Gagnon et la suivre dans sa réhabilitation, dans son processus de réinsertion sociale. Et je l'avais rencontrée quelques semaines avant sa sortie à la prison de Joliette. Puis, tu sais, après 20 ans, à faire des allers-retours, on sentait qu'elle avait vraiment fait un cheminement important. Elle connaissait les jeux de sa blessure, les pièges, tout ça. Elle se sentait relativement prête à faire son retour en société. Et malheureusement, quelques semaines après sa sortie, peut-être un mois, elle a rechuté. Elle est retournée derrière les barreaux. Alors, c'est sûr que j'ai pas pu poursuivre mon documentaire. Donc, ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, c'est un peu le titre aussi du documentaire, c'est la prison intérieure. C'est qu'au fond, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on est pris avec nos démons. On est pris avec soi-même. Puis dans le cas de Pascale, elle avait des gros problèmes de toxicomanie. Alors, tu sais, il s'agit de baisser la garde, baisser la vigilance et la rechute est pas loin. Alors, c'est ce qui s'est passé dans le cadre de Pascale Gagnon. Et puis, c'est ça, tu sais, ça me fait réfléchir sur le système carcéral, de dire est-ce qu'on guérit la source de la problématique? Est-ce qu'on va vraiment où on devrait aller plutôt que de punir le délit, punir le crime? Tu sais, moi, j'avais fait quelques recherches et je me suis rendu compte qu'en dans les pays scandinaves, en Finlande, en Suède, ils ont compris que c'est pas en punissant ou en étant dans un état de répression qu'on va nécessairement réussir à aller de l'avant puis à faire en sorte que ces personnes-là vont pouvoir se sortir du cycle de la criminalité. Alors là-bas, ils vont avoir des cures de désintoxication obligatoires, ils vont purger leur peine dans la communauté, ils vont avoir des suivis de très près. Alors qu'au Canada, on est dans la société, on rechute, on commet un délit, puis tout de suite on va en prison. C'est ce qui fait qu'on a plus de difficultés à s'en sortir. Alors je crois qu'on aurait peut-être intérêt à se référer aux pays scandinaves par rapport à leur rapport à l'incarcération et à la réhabilitation. C'est un gros travail. Là, je sais que je passe peut-être par Paris pour aller à Québec, mais c'est sûr que là c'est les balbutiements, c'est un début de réflexion, mais je crois que parfois, les détenus auraient peut-être avantage d'avoir un meilleur suivi dans leur processus.
Mais sinon, ça devient comme un cercle vicieux aussi.
Exactement. C'est le cycle de la criminalité, tu sais. Dépendance, rechute, prison. Bon, tu sais, je veux dire, en tout cas, je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire encore pour arriver à une meilleure gestion.
Donc, tu l'as pas fini, ce documentaire-là?
Ben, c'est ça, je l'ai pas fini, tu sais, parce que, premièrement, parce que elle est retournée en prison, puis après, avec le temps qui a passé, tout ça, le financement. C'est que finalement, le résultat de tout ça, ça a été une entrevue, finalement, un reportage de 10 ou 12 minutes sur la réalité de Pascale Gagnon.
OK. Ouais. On va aller en chanson avec, justement, une chanson de Pascale Gagnon qui a été enregistrée dans le cadre du documentaire qui était en train de se faire par Geneviève Tremblay à la prison de Joliette en 2017.
Si tu veux bien, toi et moi, on s'en ira. L'horizon se laisse transporter vers un nouveau monde, une vie sans cette noirceur. Si tu veux bien, toi et moi, on explorera une nouvelle fois, un nouveau moi, exterminer toute cette lourdeur. Enraciné dans ma démence, ressuscité au travers l'abîme, aller là où me porte le vent. Souvent, qu'est-ce que tu dirais si toi et moi on s'envolera vers un pays où l'immensité existe pour un monde qui vivra?
De retour avec notre invitée, Geneviève Tremblay. Qu'est-ce qui te passionne dans le format documentaire? Parce que ça a l'air quand même périlleux.
Oui, ben oui, c'est périlleux. On fait pas, on devient pas documentariste pour la gloire ou pour l'argent. C'est, ça prend une passion, ça prend beaucoup de travail, beaucoup de patience. Ben c'est sûr que moi, tu sais, même quand je travaille pas, je suis en mode documentaire parce que j'ai toujours envie d'explorer, d'aller plus loin, de comprendre, tu sais. Alors, c'est sûr que pour moi, ça fait sens. Et puis, ben, dans le fond, pour moi, c'est le plus beau métier du monde parce que je rencontre des gens qui ont des parcours extraordinaires, qui ont des parcours qui sont peu banals, des gens inspirants. Parfois, je rencontre aussi, tu sais, j'ai la chance de découvrir des sous-cultures méconnues, démystifier des réalités, tu sais, d'en apprendre, je veux dire, constamment sur les nouvelles tendances sociales, sur la vie. Alors, pour moi, c'est ça, c'est très stimulant. Puis, je veux dire, d'aller dans des lieux, dans tous les recoins que j'aurais pas eu la chance d'aller, comme juste avec Culture Choc, tu sais, j'ai eu la chance d'aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le Grand Nord, dans plusieurs communautés autochtones, après aller faire un reportage sur les Canadiens au Vatican, après, wow. Je veux dire, avec les Carmélites, après dans un pays comme la Bosnie-Herzégovine, avec des gens qui retournent, bon, dans leur famille pour voir un peu les traces de la guerre et tout ça, tu sais, je veux dire, c'est infini, c'est stimulant, c'est passionnant, tu sais, puis aussi ce qui me passionne surtout, puis ce qui me stimule, ce qui est un moteur pour moi, c'est de dire qu'on a quand même une tribune pour démystifier des réalités et puis pour briser des tabous, tu sais. Moi, quand je rencontre des gens, j'aime aller l'autre côté, j'aime montrer l'autre côté de la médaille. pour justement qu'on ait plus d'informations sur les individus pour qu'ils soient en mesure de mieux comprendre la réalité. Et puis, quand on comprend, on connaît. Puis quand on connaît, on juge moins. Mmh. Alors, c'est sûr que moi, en filigrane, le moteur de mon travail de documentariste, c'est vraiment de briser les tabous puis faire tomber les jugements. Tu sais? Mmh. Et puis, c'est la tribune parfaite pour ça.
Mmh. Justement, en 2019, tu as présenté un documentaire sur Danny Turcotte au Festival Imagination. Pourquoi tu as décidé de réaliser un documentaire sur Danny Turcotte en particulier?
À la base, Danny Turcotte, c'est sûr que c'est une personnalité que j'aime beaucoup. Moi, j'adorais Danny Verveine à l'époque, le groupe Sanguin. Évidemment, il a occupé pendant 15 années le fauteuil du coup du roi à la grande messe du dimanche. Alors, pour moi, c'est sûr que c'est une personnalité qui m'inspirait. Et aussi, surtout, je pense qu'il a fait beaucoup pour la communauté LGBTQ, avec son coming out public qu'il a fait en 2005, à tout le monde en parle. Je pense que ça a ouvert la voie, ça a ouvert la porte, il a aidé beaucoup de jeunes qui étaient, qui vivaient leur homosexualité en silence, qui avaient de la misère à s'affirmer. Alors lui, il est devenu un modèle un peu, même s'il disait « je ne veux pas devenir le youpi des gays », il est devenu un modèle pour les jeunes, un modèle pour la communauté, de dire « c'est possible d'être heureux, d'être épanoui, de réussir, même si on est gay ». Je crois qu'il a ouvert la voie. Puis depuis ce coming out, il y a eu plusieurs personnalités publiques qui ont suivi sa trace. Puis maintenant, le chemin qui a été parcouru est quand même considérable. Puis je pense qu'on doit beaucoup à Danny Turcotte. Alors, c'est un peu aussi la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire un documentaire sur lui, puis me présenter son amoureux en toute sobriété. Il y a eu des beaux moments où il nous présentait, puis c'était tout naturel, c'était beau. Puis je pense que ça fait partie de la richesse humaine.
Mmh. Et puis, est-ce que ça t'arrive souvent que tu fais des projections de tes documentaires?
Oui, c'est arrivé à quelques reprises. Tu sais, j'avais, dans le cadre du Festival international des films sur l'art, Imagination, j'ai aussi fait quelques projections indépendantes dans les maisons de la culture, dans des salles de projection. C'est sûr que moi, généralement, quand je travaille pour des séries documentaires, c'est souvent, les documentaires qui sont diffusés à la télévision. Alors, c'est plus difficile, tu sais, de prendre le chemin ou la route des festivals. Et aussi, surtout, la route des festivals internationaux, puisque, dans le cadre des grands reportages personnalités, évidemment, ça a été des personnalités québécoises. Alors, c'est sûr que je me promets d'ici quelques années de faire des productions indépendantes où je vais pouvoir prendre la route des festivals et puis sortir, découvrir d'autres régions, d'autres cultures et aller un peu partout. Je me le promets.
Mais ça doit être intéressant aussi de faire des projections parce que tu as des gens dans la salle, donc tu dois avoir un feedback plus direct qu'à la télé aussi.
Exactement, parce que souvent, quand on travaille, on n'a pas toujours de réaction du public, on a quelques messages, ça, mais là, de voir les gens réagir, de voir les gens toucher, puis après, on pose des questions, voir qu'est-ce qui les a allumés ou accrochés, puis aussi, souvent, les protagonistes sont présents. Alors, oui. C'est sûr, c'est enrichissant, même que j'aurais envie d'en faire encore plus, ça me donne envie de rencontrer le public, puis de faire des projections, d'aller plus loin aussi au niveau de la discussion, parce que ça nous amène à dire, tel aspect que j'avais pas vu, ou qu'est-ce qui pourrait être intéressant à aborder dans le futur, alors c'est très nourrissant tout ça.
Ouais. On va aller en musique avec une chanson que tu as choisie de Cœur de Pirate, c'est Femme Like You.
Parfait, avec plaisir.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey. Quand tu chantes, j'oublie, j'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit. Tu donnes son à ma vie, et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'as ce regard dans la face qui me ramène à la case départ, là où je suis partie, nous ramène à la soirée du bar quand on est sorti. Et c'est cette même complicité qui s'installe quand on est sur la scène et qu'on brille sous la même étoile. Quand ta voix croise la mienne, que j'ai ta soul dans mes veines, que mon vibe coule dans les tiennes. Femme, t'es belle, et quand tu chantes, t'es sexy, flash sur elle, rock. Star baby, donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey, complice, on leur donne un bon son live. Soulmate, à la Diddy, Mary J. Blige, glamorous. Ton style et ton charme, t'es fabulous. Un délice pour un mec à dame, baby, baby, si tu savais comme je t'aime. Baby, baby, crois-moi que l'atmosphère est parfaite. Plus tu chantes, plus je glisse sur la pente, je perds la tête. Deux vies, deux voix qui se rencontrent, deux histoires qui se racontent. Une chanson pour le dire, y a les mots, les images pour le décrire. Une belle rencontre à l'ancienne prend un flash. Y a de la magie sur scène, le rideau tombe, c'est terminé. Une belle collabo, des mots sur une feuille pour s'en rappeler. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton corps, donne-moi ta show, ton rock'n'roll. Je veux une femme like you, un homme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta show, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fun, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you.
Nous sommes de retour avec notre invitée Geneviève Tremblay, réalisatrice, journaliste et scénariste à la télévision. Ton métier te permet de rencontrer plusieurs personnalités publiques et il doit comporter énormément de recherches. Tu en parlais un petit peu tantôt. Qu'est-ce qui te passionne dans ce travail de recherche?
Bien, c'est sûr que moi, dès le départ, quand je commence à faire la recherche, déjà là, je suis très enthousiaste parce que comme j'aime comprendre l'être humain, j'aime aller en profondeur, je suis très inspirée par l'être humain en tant que tel. C'est sûr que pour moi, c'est intéressant parce que je dois vraiment en arriver à connaître la vie et le parcours de la personne que j'interviewe, parfois encore plus qu'elle-même, parce que c'est sûr que parfois, il y a des pans d'histoire ou des projets qu'on oublie. Alors moi, je revisite un peu le parcours de ces gens-là, tant au niveau de la carrière qu'au niveau personnel aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai accès à des petits bijoux d'archives. Moi, je passe des journées dans le sous-sol de Radio-Canada à visionner les archives télévisuelles. Puis parfois, tu sais, je me dis, mon Dieu, on part de loin, tu sais, je veux dire, tout le chemin qui a été parcouru. Parfois, je vois des émissions des années 60, 70, des artistes qui aujourd'hui ont 80 ans, on les voit à 20 ans, à 30 ans. Alors, c'est très, très, très nourrissant, c'est très inspirant. Puis moi, ben, je m'amuse beaucoup à passer du temps avec les archives, tout ça. Puis par la suite, ben, c'est ça, c'est vraiment décortiqué. C'est un casse-tête aussi de dire, tu sais, c'est la vie de quelqu'un. Bon, je le prends de quelle façon? Bon, quelle est l'angle, la structure? Qu'est-ce qu'on met en lumière? Est-ce que vraiment on va être en mesure d'honorer ce temps de sa vie et tout ça? Alors, c'est sûr que pour moi, le travail commence, là, tu sais, à dire où on va. À gauche, à droite, en avant, qu'est-ce qui est pertinent jusqu'à l'entrevue. Puis après l'entrevue, ben là, ça prend des heures et des heures de préparation, des journées importantes de tournage aussi. Puis par la suite, ben là, c'est toute la post-production, le plan de montage. Parfois, j'ai des centaines de pages de verbatim où on doit vraiment analyser, décortiquer, puis mettre une structure qui pour en arriver à un produit final. Puis quand j'arrive au montage, ben là, il y a 1h30, 1h40, parfois 2 heures de contenu que je dois diminuer à 30 minutes pour ensuite mettre les archives. Donc, c'est un long travail, c'est un travail de moine, mais j'aime ça. Je sais pas, certaines personnes se disent « Comment tu fais? Tu dois être patiente? » Mais moi, je sais pas, ça me nourrit, ça me stimule, puis je suis toujours satisfaite quand j'arrive à un résultat. C'est surtout si la personnalité que j'interview ou que est à l'aise avec le résultat, ben c'est sûr que pour moi, ça me rend plus joie.
Oui.
Oui, c'est ma récompense. Oui.
Mais ça semble être un travail très solitaire. Est-ce que tu es libre?
Oui.
La plus grande partie, tu l'as fait seule?
Oui, 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 vraiment. C'est un travail en solitaire. Tu sais, je veux dire, dans le fond, 3/4 du temps, bon, quand je débute le processus de documentaire comme ça, est en solo. Donc, la recherche, après, c'est la post-production, la préparation du montage, tout ça. Alors, c'est un travail... c'est ça. Je dirais que la majeure partie du temps, c'est en solo. Mais évidemment, quand je suis en tournage, il y a quelques journées de tournage où, ben là, je suis avec mon équipe, là, caméraman, preneur de son. Parfois, il y a des assistants. Et il y a aussi l'autre partie, à la fin, au montage, où je suis avec la monteuse Julie Campra, avec qui je travaille. Mais avec la pandémie, on a fait ça par Zoom. Fait que
wow.
C'est encore plus beau. Le montage par Zoom, c'est quand même très efficace. Mais j'espère avoir la chance de retourner en salle de montage.
Oui. En 2017, tu as fait des entrevues pour le projet Quand l'amour rend aveugle. J'aimerais ça que tu nous parles de ce projet-là.
Ben oui, ça a été aussi un projet très intéressant qui m'a quand même touchée. C'était troublant aussi parce que je rencontrais des gens qui se sont fait avoir, qui ont eu des histoires d'amour, qui sont tournés au cauchemar. Et donc, avoir leur discours, les entendre me parler de ce qu'ils ont vécu. Ben, c'est des histoires atroces, des histoires de séquestration, de trahison, problèmes de toxicomanie, de violence. Alors, c'est sûr que ça m'a touchée, mais c'est sûr que de voir ces gens-là oser partager, ça prend beaucoup d'humilité, partager ce qu'ils ont vécu justement pour pouvoir avoir un impact sur le public puis peut-être empêcher que des histoires comme ça se reproduisent. Tu sais. Mm-hmm. Alors, c'est des gens qui ont beaucoup de résilience, beaucoup de courage. Et même moi, tu sais, depuis que j'ai fait cette série documentaire, je suis plus prudente. Tu sais, on est plus à l'affût des drapeaux rouges dans les rencontres et tout parce que ça peut arriver à n'importe qui. Tu sais. Alors, le titre était « Quand l'amour rend aveugle » et je crois que c'est vraiment ça. C'est quand on est amoureux, on est aveugle. Parfois, on peut passer à côté de certains signaux qui auraient pu nous éviter bien des problématiques.
Oui. Et ça a été diffusé où? Ce documentaire-là?
Ça, c'était sur les ondes de Canal U. Oui, Canal U. Il y avait, je crois, il y avait une douzaine d'épisodes. Et ce qui était intéressant aussi avec Quand l'amour rend aveugle, c'est comme réalisatrice aussi, c'est qu'on avait la chance de faire des reconstitutions. Donc, j'ai pu goûter un peu à la portion fiction dans mon travail. Donc, on a engagé des comédiens, des comédiennes pour finalement interpréter l'histoire des personnages qu'on rencontrait. Alors, c'était plus crédible. Et j'ai beaucoup appris, c'est avec Jean Bourbonnais, le réalisateur, qui lui mettait en scène les histoires. Puis moi, je l'accompagnais dans cette aventure. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Puis même, ça me donne le goût peut-être d'ouvrir une autre porte, peut-être, puis tenter mon expérience en fiction.
Ouais, mmh. Ça serait génial.
Oui, vraiment. Vraiment. Même si je reste une documentariste dans l'âme,
oui.
Peut-être que ça me risque d'y toucher un jour. Oui.
On va aller en musique avec Alexandre Poulain et Contrebande et on revient avec notre invitée Geneviève Tremblay.
Entre ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller. Des fois, je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché. Entre mes rêves de superstar et mon enfance en Super 8. J'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite. Ouh, penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière? Je veux croire en la beauté du monde, mais des fois j'ai peur pour ma fille. Des fous, des méchants, puis des monstres qui existent pour vrai derrière la vitre. C'est fou pareil, c'est pas disable de grandir dans un monde jetable. Je veux pas lui dire comme j'ai la chienne du noir dans la nature humaine. Mon souffle et mon élan. Pourrais-tu retrouver mon ombre et ma lumière en filament? Et si jamais tu perdais pied, je glisserai ma main dans la tienne. Je te ferai du feu puis du café, je veux croire en la nature humaine. Penses-tu qu'on peut ensemble? le noir trouve jamais sa chambre.
Nous sommes toujours avec Geneviève Tremblay. J'ai vu que tu es une réalisatrice équitable. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi?
Oui, bien, les réalisatrices équitables, c'est un organisme à but non lucratif qui regroupe 250 réalisatrices professionnelles. Et puis, le but de cet organisme-là, c'est vraiment d'atteindre la parité hommes-femmes. Parce qu'on sait, malheureusement, dans le milieu du cinéma, de la télévision, les hommes ont encore des salaires annuels moyens plus élevés, on leur confie davantage de projets à gros budget. Tu sais, oui, il y a eu quand même un chemin qui a été parcouru, c'est mieux qu'avant, il y a encore du chemin à faire. Et puis, les réalisatrices équitables sont là pour militer dans ce sens-là. On a grandement besoin de cet organisme. Ce qui est intéressant aussi avec les réalisatrices équitables, c'est qu'ils ont un portail qui regroupe justement les réalisatrices, 250 réalisatrices, avec leur curriculum, une filmographie, des fiches, puis on a même accès à des films, des documentaires sur le web. Alors, ça vaut la peine. L'adresse web, je crois, c'est lesdamesdesvues.com. Alors, vous avez accès à une panoplie de films qui ont été réalisés par des femmes, par des réalisatrices.
Ça fait 20 ans que tu fais ce métier-là. Est-ce que tu as vu la place des femmes dans le cinéma changer?
Ben oui, ben c'est sûr que moi, j'ai eu la chance quand même, là, comme réalisatrice, c'est sûr que je travaille depuis 20 ans. Alors, c'est sûr que j'étais quand même privilégiée. Mais je crois, c'est sûr que, tu sais, on le voit plus ou moins quand on est dans l'action, dans le monde, dans nos petits projets individuels. C'est difficile de quantifier tout ça. Mais c'est sûr que, oui, il y a une évolution. Puis surtout, on le voit en chiffres. De plus en plus, on entend parler de réalisatrices qui font des films. Tu sais, je pense à En tout cas, je ne commencerai pas à les nommer, mais il y en a beaucoup. Alors, c'est sûr que oui, il y a un certain progrès qui a été fait, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos acquis parce que c'est très fragile.
Tu voyages beaucoup. Est-ce que c'est surtout pour le travail ou plus pour ton plaisir?
Bien, j'ai toujours beaucoup voyagé. Puis je vous dirais que j'ai même peut-être voulu être documentariste parce que j'avais envie du voyage aussi. C'est sûr que je vous dirais que ça fait partie de ma vie personnelle et de mon travail parce que c'est sûr que... En travaillant à l'émission 109 à RBI, ça m'a amené bon, dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Aussi, il y a une série documentaire vraiment que j'ai adoré réaliser qui s'appelle La Symphonie du Nouveau Monde. Et moi, j'étais en charge du segment Retour aux sources où j'accompagnais des musiciens canadiens dans leur pays d'origine. Wow. Alors, ils faisaient découvrir leur musique, d'où ils viennent, leur famille, leur culture. Alors, ça a été tellement nourrissant. Et je pense entre autres à mon musicien que je suivais, Hassan El Hadi, un joueur de oud. Je l'ai accompagné pendant, je pense, plusieurs semaines dans sa famille. J'ai été adoptée par ses frères, ses sœurs. Il m'a fait découvrir des lieux que j'aurais jamais eu la chance de découvrir, le festival Kinoa à Essaouira. J'ai aussi été au conservatoire de musique classique où j'ai appris la musique. J'ai connu de la musique traditionnelle marocaine. Alors pour moi, ça a été vraiment un charme de réaliser ce documentaire. Hassan. Puis aussi, ce qui était spécial, c'est que, bon, tu sais, on est dans un pays musulman, bon, le patriarcat, la place des hommes, bon, qui est très importante. Puis moi, j'arrive là-bas, je suis une femme, puis c'est moi qui dirige, puis j'ai une équipe d'hommes, puis tu sais. Alors, je pense que il y a certains hommes qui ont été un peu choqués par ça, mais avec le temps, j'ai réussi à les apprivoiser. Puis même parfois, dans certains événements, j'avais la chance d'aller. J'étais la seule femme qui allait avec les hommes parce que moi, j'avais la caméra, j'étais la réalisatrice. Alors, j'avais certains privilèges, mais je vous dirais que j'ai vraiment adoré cette expérience. Je pense aussi au Madagascar. Bon, j'avais suivi Madagascar Slim, c'est son nom d'artiste, et il me fait découvrir la cérémonie du Famadim. Donc, ça, c'est la cérémonie du retournement des morts. Donc, à Madagascar, à chaque 9 ans, ils ont ce rite où ils veulent honorer leurs morts, honorer les anciens. Et c'est un rituel vraiment... J'ai assisté à ça, puis j'en ai encore des frissons. Là, ça a été vraiment des moments mémorables. Puis, je pourrais continuer. Là, je veux pas vous enfiler avec une histoire, mais tu sais, c'est sûr que pour moi, le voyage et découvrir, c'est comme dans le fond une continuité de ma passion pour l'être humain, parce que dans le fond, c'est l'être humain dans son environnement, dans ses rites, dans sa culture, tu sais. Alors pour moi, voyager, je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça a été difficile, mais là, j'ai hâte là, de pouvoir faire mes bagages et découvrir d'autres cultures.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Ah, oh, quelle est belle notre chance.
sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. N'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
On vient d'entendre Zaz avec On ira et nous sommes de retour avec notre invitée Geneviève Tremblay.
Les deux voyages dont tu nous parlais, est-ce que c'est les voyages qui t'ont le plus marqué?
Ben, il y en a d'autres. Tu sais, moi, j'ai adoré aussi. Un voyage marquant pour moi, c'était à l'île de Sado au Japon. Moi, je suivais le groupe Arashi Daiko qui allait vivre une expérience avec les meilleurs joueurs de taiko au monde, le groupe Kodo. Alors moi, je les ai suivis dans leur parcours. C'était des jeunes japonais, ils étaient une dizaine. Et je les ai suivis dans leur rituel quotidien d'apprentissage et tout sur l'île de Sado. Pour moi, c'est un choc culturel qui était beau à la fois, mais en même temps, c'était la musique, c'était la beauté du paysage, c'était de suivre les musiciens de taiko qui étaient émerveillés, qui apprenaient des grands maîtres. Alors ça, pour moi, c'est sûr que ça fait partie des voyages qui m'ont beaucoup inspirée.
Ouais. Ça doit être extraordinaire d'être là avec des gens qui viennent de là aussi. Ça te fait découvrir des choses que tu découvrirais pas.
Vraiment. Ils ont une discipline exceptionnelle. Les jeunes de 16-17 ans là, qui ont le rêve de faire partie du groupe Kodo, qui veulent devenir les meilleurs joueurs de taiko au monde, mais ils sont disciplinés. Ils se lèvent à 5 heures. Ils font des exercices vocaux, de chant, de danse toute la journée. Ils prennent des petites pauses. Ils continuent le soir. Alors pour moi, c'est sûr qu'avec une sous-culture... C'est un autre monde. C'est vraiment des gens qui se donnent. Et puis, en même temps, la chose qui m'a le plus marqué, c'est que, bon, j'avais demandé aux grands maîtres de Kodo qui vont probablement faire partie du groupe. Est-ce qu'il y a beaucoup de ces personnes qui vont être sélectionnées? Puis, parmi les 10 personnes que j'ai suivies, qui étaient talentueuses, qui étaient très, très, très mobilisées, ils m'ont dit qu'il y aurait probablement personne qui serait choisi. Tu sais, fait qu'on voit, là, toute cette rigueur. Alors, c'est sûr que c'est... On est ailleurs, ici, au Canada.
Et est-ce que c'est toi qui choisis tes sujets pour les documentaires que tu réalises?
Ben, je vous dirais que c'est moitié-moitié. Tu sais, parfois, j'ai des commandes. On m'appelle, on me dit, je dis, est-ce que c'est le sujet, ça t'intéresse? Oui, parfait. Mais c'est sûr que moi, j'aime proposer, j'aime faire des propositions. Surtout au niveau des grands reportages personnalités, dans le cadre des biographies, c'est sûr que c'est plus difficile de faire le portrait de la vie de quelqu'un qui nous touche moins ou tu sais, qui nous intéresse moins. Ouais. Alors, généralement, dans le cadre des grands reportages, c'est souvent moi qui proposais les personnalités que j'avais envie de découvrir, que j'avais envie de connaître. Okay. Mais je vous dirais que, globalement parlant, c'est à peu près 50-50 là, dans mon travail là, général. Ouais.
Et est-ce qu'il y a des personnalités dont tu n'as pas encore fait le documentaire, dont tu aimerais vraiment en faire un?
Ben oui. Tu sais, je vais être honnête, là, une qui m'intéresse, c'est présentement en développement. Je travaille très fort pour que ça fonctionne. Je pense que tu as eu la chance de faire une entrevue avec elle, c'est Jeannette Bertrand. C'est un monument, une femme que j'adore, que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre du documentaire que je faisais sur Élise Bilbo. Puis rapidement, on a connecté, on avait certains projets qu'on voulait faire. Je veux dire, on a brainstormé pour justement proposer un certain projet. Mais en parallèle à ça, moi, je voudrais vraiment faire sa biographie. C'est une femme allumée, c'est une femme qui a envie de vivre à 96 ans. Elle a encore mille et un projets, elle est encore très allumée. Son combat, tu sais, pour l'égalité homme-femme, c'est encore très important pour elle. Là, maintenant, elle veut vaincre l'âgisme. Puis c'est tout en son honneur, puis c'est ce que j'aimerais aussi aborder avec elle dans le documentaire. Mais il y a tellement de choses à dire. Puis, en tout cas, tu sais, je souhaite fermement que ça puisse se réaliser, mais je crois qu'on est sur la bonne voie.
Moi aussi, donc, je te souhaite, ce serait vraiment génial d'avoir un documentaire sur Jeannette Bertrand.
Oui, merci beaucoup. Merci. Oh oui, tu sais, mais je vous dirais que c'est presque fait, là.
J'ai hâte de voir.
Oui.
Est-ce que tu travailles sur quelque chose en ce moment?
Là, c'est ça, il y a plusieurs projets là, que je suis en train de développer, mais un plus concret, je vais faire une série web sur les innovations technologiques dans le domaine de la reconstruction du corps. Okay. Pas au niveau esthétique, mais vraiment pour les personnes qui sont en situation de handicap. Alors, je vais aller rencontrer des équipes de chirurgiens qui sont vraiment à la fine pointe de la technologie dans le domaine de la reconstruction. Alors, ça devrait être très intéressant et puis je devrais commencer d'ici quelques semaines à faire les tournages. Pour regarder ça, puis c'est dans le cadre d'une série documentaire, encore là, sur la reconstruction du corps, qui va être diffusée à Mi-Télé. Oui. Et ça devrait être diffusé, je crois, vers la fin de 2021. Oui.
Ton parcours est vraiment intéressant, Geneviève. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre tous tes projets, où on pourrait en visionner aussi?
Oui, ben oui, c'est ça. J'ai ma page Facebook où je présente certains projets. J'annonce la diffusion de certains projets documentaires. J'ai aussi ma chaîne YouTube, Geneviève Tremblay, genevièvetremblayyoutube.com. J'ai aussi le site des réalisatrices équitables, des Dames des Vues, où j'ai ma fiche avec plusieurs liens de documentaires que j'ai réalisés. Et il y a aussi plusieurs documentaires que j'ai réalisés dans le cadre de la série Les grands reportages personnalités qui sont présentés sur tout.tv. Alors, ce que j'en oublie, il y a plusieurs sites, puis aussi lesdamesdesvues.com, exactement.
On va essayer de suivre tes projets avec attention. Geneviève, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de te rencontrer.
Merci à toi. Ça a été vraiment une belle entrevue. À la prochaine.
À bientôt. Merci.
À bientôt. Bye.
Bye-bye.
I hear your voice, but it never quite fills the void. Thought that we were too for good, but love is never like it should. I can arrange meeting a stranger for gave you a day, but I can't imagine what even happens beyond the pain. See the sun leading us to the land of the lost and the reasonless. Hear the drum beating. Sleeping on my chest. You wanna rip my heart out, baby, be my guest. I'll be here this song and reminisce, cause without me your whole life is fucking meaningless. See the sun leading us to the land of the lost and the reasonless. Hear the drum beating us. I'll forever surrender.
On vient d'entendre une chanson de Charlotte Cardin tirée de son dernier album. Un grand merci à notre invitée Geneviève Tremblay. Nous, on se donne rendez-vous pour une autre émission de Lesbosons le lundi 5 juillet prochain à 19h. Et on se laisse avec une chanson de Pamela Parral tirée de son album Chapter 2 qui s'appelle Freedom. À très bientôt et prenez soin de vous.
Bonjour tous les dames sexées de Montréal. Ici Pamela Parral. Vous écoutez les Lesbosons sur les ondes du CKUT 90.3 FM.
Baby, you know I love you. I really, really love you. But I gotta go. Baby, you've been so good to me, better than I could believe, but I still gotta go. Oh, and don't make this difficult in the end, 'cause I always wanna consider you my friend. And I know it's gonna hurt for a while, but I hope someday when you think of me, you're gonna smile. I said, oh, baby, you give me what I to see a little freedom. I said, oh, baby, give me what I need. Oh, maybe what I need is to see a little freedom. It's only gonna make things a whole
I know someday I might regret it. But live it up, live it up. So much worse. I said, baby, you give me what I need. But maybe what I need is to see.
Let us all be strong together and take care of one another.
Mashkawizi da kakine mamawe. Naga dawabindid da kakine mamawe.
Minowazo da kakina wiage eje anishnabe kijik. Let us celebrate National Indigenous Day.
Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur la racine de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collect de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collect. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
I pity the country, I pity the state, and the mind of a man who thrives on hate. Small are the lives of cheats and of liars, of bigoted news press, fascist town crier. Deception annoys me, deception destroys me. The Bill of Rights froze me, in jails they all know me. Frustrated are churchmen, saving of soul men, the tinker, the tailor, the colonial governor. They pull and they palm me, they're seeking to draw me away from the roundness of the light.